Pivote, le podcast 100% Friends. Here we go.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cet épisode. Oui.
Absolument,
parce que nous, après le centième épisode, on appelle un épisode. Voilà. On est sur notre lancée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pivote, le podcast, évidemment, qui décortique, je le refais parce que ça fait longtemps, telle une crevette d'IVT télévisuel, chaque chapitre de cette série formidable qu'est Friends, armé de ses mains d'une dextérité absolument folle, la décortiqueuse en chef qui fait trembler toutes les crevettes trempant dans les sauces cocktails. Voici Iris, coucou Iris.
Salut Marina. Alors sache que je sais décortiquer des crevettes au couteau et à la fourchette.
Ah,
sans me salir les doigts, c'est vrai ?
Moi aussi, ouais. Et tout le monde se moque de moi. Moi, il faut savoir, je ne mange jamais avec les mains. J'ai une grosse aversion pour manger avec les mains. Donc,
tu t'entendras bien avec le chéri parce que c'est pareil. Lui, même voilà, les frites, il y va à la fourchette.
Voilà. Et donc, du coup, pardonnez-moi, effectivement, nous éloignons un peu. Mais
oui.
Voilà. Donc,
mais c'est important de savoir ça.
Oui, et voilà. Et peut-être que me fait voir
un côté plus
nouvelle humain. Facette, voilà.
Voilà.
Bref, revenons à nos friends, à nos amis. Donc, dans ce cinquième saison de cet épisode 4, ça va être très compliqué. Restez avec moi, spectateurs et spectatrices des oreilles. Restez avec moi.
Suivez-la, elle arrive quelque part.
Voilà, c'est ça. Donc, dans cet épisode 4 de la saison 5 intitulé « The One Where Phoebe Hates PBS », celui dans lequel Phoebe déteste PBS, donc PBS est une chaîne de télévision, qui a été traduit par celui qui accepte l'inacceptable. Ross, après avoir appelé tous les membres de la famille d'Emily, finit par avoir sa femme. Il s'explique, il s'excuse de nouveau pour ses nombreuses gaffes et lui demande une dernière fois de venir le rejoindre à New York pour qu'ils entament leur vie de jeunes mariés, ce qu'ils devaient faire de toutes les manières à l'origine. Contre toute attente, Emily finit par accepter, à une seule condition, que Ross arrête de fréquenter Rachel après tout ce qui lui est arrivé. Joey, lui, il est tout excité puisqu'il a appris qu'il allait co-animer le Téléthon sur la fameuse chaîne PBS. Mais lorsqu'il arrive, il réalise qu'en fait, il doit juste répondre au téléphone et prendre des promesses de dons. Des dons qui, toujours selon Joey, ont toujours un côté intéressé. Une affirmation qui met Phoebe dans tous ses états, puisqu'elle va passer tout l'épisode à essayer de le convaincre que oui, il existe des dons désintéressés. Enfin, Chandler et Monica, du côté du couple, de notre couple chouchou, Chandler se met de nouveau dans de beaux draps, puisqu'ils fanfaronnent. Et fanfaronne est vraiment le mot adéquat que j'assume, après avoir appris qu'il était le meilleur coup de Monica. Et donc Monica, fidèle à elle-même, va se venger de cette fanfaronnade un petit peu malvenue, on va dire. Après ce résumé digne d'une poule qui aurait vu l'épisode, donc Iris, qu'as-tu pensé de cet épisode ?
Je l'ai assez bien aimé parce que Monica et Chandler, hein, as usual, les intrigues fonctionnent très bien. Le côté secret permet de nous donner une foultitude de situations drôles. Donc ouais, ça, c'est cool. Il y a Ross et Emily. Bon, alors on sait, hein, on sait qu'Emily, c'est le moment où on va la détester. Sauf que moi, maintenant, j'ai compris que j'avais rien contre Emily. Donc, je vois les choses un peu différemment, ce qui me permet d'un peu mieux accepter ce fil-là et cette demande qu'elle fait à Ross, qui est donc de ne de ne surtout plus jamais voir Rachel, qu'on peut comprendre de son point de vue à elle. Hein. Elle
ouais.
est dans un autre continent, elle ne peut pas surveiller Ross. Alors, je spoil un peu, mais parce qu'on sait que globalement, elle a du mal à lui réaccorder à nouveau sa confiance. Parce que il a beau ne pas l'avoir trompé, il a quand même fait un truc un peu, voilà, dire le mauvais prénom à l'hôtel, c'est quand même moche.
Non, puis là, je pense
qu'à ce
niveau-là, je pense qu'à ce niveau-là de sa relation, c'est surtout elle abandonne sa famille, son boulot,
oui.
quoi, pour un garçon qu'elle aime. Elle voudrait pas non plus abandonner tout pour que dans 6 mois, ils lui disent en fait, non, depuis le début, j'ai été amoureux de Rachel. Et voilà,
oui,
même
oui,
si ce n'est pas le genre de Ross, mais elle, je pense qu'à ce niveau-là de leur relation, elle veut quand même être sûre que au moins peut-être le temps qu'ils passent à autre chose et qu'ils arrivent à digérer tout ce qui leur est arrivé. Qui s'éloigne de Rachel, par rapport à tout ce qui s'est passé. Effectivement, c'est pas non plus une demande qui semble saugrenue. Maintenant, effectivement, dans le monde de Friends, je pense que c'est à partir de là où effectivement Emily, bon, déjà avant, mais je pense que les fans de Friends qui déteste Emily de cette intrigue-là, parce que effectivement elle met
oui,
à mal
elle est l'ennemi qui sépare
elle est l'ennemi
Rachel,
voilà qui reste ouais. qui sépare et elle met à mal leur amitié et leur relation de manière plus générale quoi.
Et j'aime beaucoup aussi cette espèce de réflexion philosophique, c'est peut-être un bien grand mot pour Friends, mais quand même, entre Phoebe et Joey, est-ce qu'il existe des actions désintéressées? Moi, ça m'avait fait poser la question, justement, et j'ai trouvé ça bien que Phoebe essaye de trouver qu'il existe des actions complètement désintéressées, que, in fine, elle n'arrive pas à en trouver.
Ouais.
Et que je serais plutôt du côté de Joey dans cette histoire-là. Mais avant que tu me dises ton avis là-dessus, parce que ça m'intéresse, moi je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode au global, toi.
Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode au global? Moi, pareil que toi, je pense qu'on arrive dans une phase où Ross ne m'est pas particulièrement sympathique de manière globale. J'aime pas... Enfin, j'aime moins ce truc, on en avait déjà parlé, mais pour moi, effectivement, Emily, elle passe d'une nana hyper sympa à une nana...
contrôle fric, enfin...
Contrôle fric ou quoi, parce que bon, ouais. Après...
À raison,
et puis après, on a su que l'actrice était enceinte et qu'elle pouvait pas disparaître du jour au lendemain. Elle disparaissait totalement, elle ne pouvait pas rester la femme de Ross et ne pas apparaître dans les épisodes. Pour moi, là, c'est des épisodes un peu particuliers ce ne sont pas mes préférés, mais qui sont, moi, pour le coup, là, celui-ci, je trouve qu'ils sont sauvés, évidemment, par Chandler et Monica. Mais j'aime beaucoup aussi, la dispute entre Joey et Phoebe, où Phoebe, elle dit, écoute, j'ai mis au monde 3 enfants, je ne veux pas les avoir mis au monde, dans un monde, justement, les avoir fait naître dans un monde où Joey a raison.
J'aime beaucoup cette réplique.
Ça me fait beaucoup rire. Et Joey, d'ailleurs, qui est très vif dans cet épisode,
absolument. Oui,
passé.
il s'est réveillé, quoi. Il est bien, puis il a allumé son cerveau.
Joey, il sait qu'effectivement, les abeilles meurent une fois qu'elles sont piquées. Il a une réflexion hyper philosophique sur effectivement le désintérêt, les. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous,
qui
Joey?
Triviani,
mais qui êtes-vous? Donc voilà, mais bon. Moi, il y a vraiment la scène d'introduction, elle est exceptionnelle pour moi. J'adore quand Rachel rentre dans la chambre de Monica.
Oh,
parce qu'elle
oui.
te laisse imaginer vraiment.
Oui. Elle est manifestement, Monica, dans une position plutôt lascive, dirons-nous. Et s'il te plaît, dis-moi que tu attendais un garçon, s'il te plaît. En plus, ça fait un truc à rebondir. Excuse-moi, j'adore Monica qui rebondit. Oui, oui, exactement, ah c'est ouais, ça, c'est j'attendais ça. Un mec.
Non, mais parce que avant
tout
ça,
pour réaliser quoi.
Ah non, et avant ça, elle dit non, mais je faisais la sieste. Elle lui dit attends, depuis quand tu faisais la sieste? Dans une... Et vraiment, moi, je trouve que cette scène, elle est folle. Et quand, évidemment, et pour... là, moi, pour moi, on est vraiment dans du Friends, du grand art de Friends.
Ouais, ouais, ouais,
parce que Chandler rentre et effectivement, il a sa bouteille de champagne. Et elle lui dit, ouais, allez, ma boîte, elle a acheté du papier sans pli pour envoyer des fax. Allez, champagne pour tout le monde. Et vraiment...
Une spontanéité pour rattraper le coup, elle est incroyable. Quoi. Je trouve ça génial.
Et les deux, et c'est ça. Et moi, pour moi, cette scène-là, elle.
Oui. C'est du top niveau, là.
Après, l'épisode aurait pu être un noir pendant 25 minutes. voilà. Non, mais vraiment, parce que moi, cette scène, pour moi, elle est magnifique. Quoi.
On avait tout ce qu'il faut ici, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, c'est là où on ressort comme. Enfin, comme tu dis, mais surtout les meilleurs moments, les meilleures scènes drôles des secrets de Chandler et Monica, quoi. C'est là, on a tout, quoi. Et vraiment, je suis d'accord. D'abord, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais quelle est cette position pour que, que Rachel soit choquée ? Si elle est choquée, c'est-à-dire qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir dans la vie. Et du coup, ça veut dire que la position devait être particulièrement acrobatique, tu vois.
Ouais, ou alors très provocante. Moi, j'imaginais
vraiment extrêmement provocante, c'est pas
très provocante, parce que bon, même si elle partage un appartement, ça fait toujours bizarre de voir ta coloc petite nuisette. Tu vois, on imagine qu'effectivement, elle l'attend pas. Voilà.
Elle est juste allongée, quoi.
Ouais, voilà.
D'accord, qu'elle n'est pas juste allongée avec la nuisette. Voilà. Donc c'est très, très très drôle, et la répartie de Chandler quand il arrive avec son rire qui se coince dans sa gorge là.
Ouais, c'est ça. Fait,
on a des nouveaux trucs au boulot, c'est trop bien.
Non, puis bon, moi j'aime beaucoup, là on retrouve un peu le même mécanisme que dans l'épisode précédent, mais effectivement Chandler qui se mord un peu les doigts d'avoir fanfaronné, parce que du coup Monica se venge, et après il réussit à se faire pardonner, de manière encore une fois hyper adorable, quoi, parce que effectivement il lui dit je vais t'expliquer, hein, si je suis entre guillemets bon au lit, c'est vraiment grâce à toi, parce que elle lui dit, de toute façon avant toi j'étais personne, et tu peux appeler les filles avec qui j'étais, ce qui va te prendre très peu de temps parce qu'elles sont peu nombreuses, quoi,
donc c'est extrêmement mignon, ça.
Ah, moi, voilà. Donc, on a déjà un petit peu, encore une fois, on est sur le même mécanisme que de l'épisode précédent où, lui, il est maladroit. Elle lui fait comprendre de manière un peu dure, entre guillemets, qu'il est maladroit. Et lui, il est super adorable, il se rattrape. Et lui, elle, comme elle est folle de lui, elle lui pardonne sans aucun problème, quoi. Donc.
Alors, par contre, il y a aussi un autre truc qui me fait rire, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec les deux, mais entre Phoebe et Joey, quand ils ont leur discussion, et qu'à un moment, il dit, c'est Joey qui dit, tu connais le truc avec le Père Noël. Puis elle continue la discussion. Puis à la fin, elle dit, au fait, tu voulais dire quoi à propos du Père Noël? Donc, Joey, il dit, qu'il n'existe pas. Les yeux de Phoebe.
Ouais.
J'adore. En fait, moi, je trouve ça à la fois hyper mignon que Phoebe croit encore premier degré au Père Noël. Et, elle est outrée, elle a les yeux mais ronds comme des billes en découvrant que le Père Noël n'existe pas. Je trouve ça drôle et hyper touchant, quoi. C'est du fils tout craché, et j'adore, quoi.
Moi pareil, quoi. Tu vois, c'est vraiment, elle veut faire son adulte, et voilà, finalement, Mais moi, j'aime bien aussi la dispute, entre guillemets, où vraiment Joey lui dit, dis-moi des trucs, donne-moi un exemple.
Un exemple,
D'un truc désintéressé.
S'il te plaît, donne-moi, non.
Voilà.
Non, tu ne peux pas, non.
c'est ça. Donc, Et puis, moi, j'aime bien aussi Joey Phoebe, c'est vraiment une dynamique, pareil, que j'aime
elle
beaucoup.
Fonctionne bien,
c'est une connivence que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi quand Phoebe croit au pouvoir de la Magic 8 Ball, quoi. La Magic 8 Ball,
c'est très sérieux.
Et c'est pas étonnant en même temps, tu vois. C'est pas
étonnant, Phoebe tout craché, hein.
Mais c'est très drôle, quoi. Donc, et puis, explique aussi un petit peu le côté très désespéré entre guillemets de Ross, voilà, qui ne sait pas trop à quel sein se vouer après, après la demande d'Emily, quoi.
Oui, on peut comprendre qu'il soit totalement désespéré, parce que là, c'est très, très compliqué de faire ce choix. Mais moi, j'aimerais revenir, justement, tu dis, Phoebe qui croit au pouvoir de la Magic 8 Ball. Donc, Magic 8 Ball, c'est je crois qu'en français, on l'appelle la boule magique. Si vous voulez en acheter une, ça ressemble à une énorme boule de billard, un numéro 8 et noir. Et on la secoue, on pose une question, et à l'intérieur, il y a une espèce de dé multiface avec des réponses. À des questions, et donc enfin à des questions que toi tu peux te poser.
Voilà, c'est ça.
Et comme ça baigne dans un liquide un peu épais, à la secouer, ça fait bouger le dé multiface et ça fait apparaître une des faces sur laquelle il y a une inscription. Et du coup, moi, j'ai une théorie depuis quelque temps. Je pense que Phoebe est une sorcière parce que mais sorcière dans le sens je me suis un peu intéressée au folklore, justement, de la sorcellerie, les Wicca, tout ça, tous ces trucs-là.
Ouais.
Pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue vraiment folklore de la sorcellerie. C'est-à-dire aller faire des potions, avoir des intuitions, croire justement à, au hasard qui n'est pas du hasard, plutôt.
Ouais.
D'un synchronisation, je sais pas comment, synchronicité, je crois que c'est ce qu'ils disent, ce genre de choses. Et il y a plein de petits éléments au fil de la série, jusque-là, qui me disent que moi, elle a versé là-dedans. Ça fait partie des choses qui lui plaisent. Tu vois, d'abord, il y a l'épisode au tout début où les filles sont à deux doigts de créer un incendie elles font une. Comment on appelle ça un rituel justement
ouais, c'est ça.
Pour
un nettoyage un
épurage. On a besoin de la semence d'un homme vertueux. Écoute, Phoebe, si on avait un truc pareil, on n'aurait pas besoin de faire ce rituel. Donc tu vois, ça c'est des trucs typiquement sorcellerie. Je parle d'un point de vue folklorique. Hein. Après, en religion, j'en sais rien, mais d'un point de vue purement folklorique, c'est exactement ce genre de choses qu'on retrouve dans la sorcellerie. Il y a plusieurs fois des choses comme ça où elle parle de rites, de choses comme ça, de rituels à droite à gauche. Le fait que au tout début, je crois que c'est dans le tout premier épisode, elle essaye de nettoyer l'aura de Ross.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pareil, il y a ça. Il y a eu un épisode, je ne sais plus où, je ne sais pas s'il est déjà passé ou s'il arrive après, mais il y a un moment où elle s'installe à une table, elle verse du sel dans sa main et elle le jette derrière son épaule. Pareil, ça fait partie aussi de ce genre de symbole autour de la sorcellerie. Parce que c'est considéré comme quelque chose de. Le sel est considéré comme quelque chose de protecteur. Et c'est à la fois une. Comment on appelle ça ? Une superstition, mais qui vient aussi de ce folklore-là, en fait. Voilà. Donc pour moi, Phoebe.
Ah oui, je pense. Je pense. Ça m'étonnerait pas, on va dire, par rapport à tout ça, quoi.
C'est ça.
T'as pensé quoi de Joey, de l'intrigue autour de Joey, du coup?
Alors, on peut tout à fait comprendre que Estelle est soit mal expliquée à Joey, soit mal compris elle qu'elle vendait Joey pas comme un co-host, mais comme un co-animateur, pardon, mais juste comme quelqu'un qui répond au téléphone. Je le trouve un peu poussif dans sa manière de jouer Matt LeBlanc quand il est au téléphone et qui fait PBS Telephone en levant les yeux ostensiblement en l'air. Je trouve ça un petit peu exagéré, mais bon, après moi je trouve ça très très drôle quand on le voit se battre en arrière.
Ouais, derrière, voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, moi ça me
c'est nul, mais ça me fait rire en fait parce que je trouve que c'est très très dans la veine de. Je ne vais pas retrouver les noms des auteurs, mais des films de type Hot Shot.
Ah
de
oui.
Type, surtout Hot Shot en fait, mais voilà, de cette veine-là où ça joue beaucoup sur ce genre de vanne. C'est-à-dire qu'en premier plan, ça discute à peu près sérieusement. En tout cas, les gens sont extrêmement sérieux. Et en arrière-plan, tu vois des trucs complètement loufoque et comique, et c'est complètement dans la même veine. Et donc, je suis très, très cliente de ça. Quoi.
J'adore. Alors moi, il y a un truc. Alors il y a des choses par contre pourquoi Joey toque à la porte en tout début d'épisode ? Ça, c'est toujours un truc qui m'a, dans cet épisode-là, c'est toujours un truc qui m'a choqué. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux, ils rentrent chez, enfin, les gens, les uns chez les autres, tu vois.
Oui, facilement,
comme
sans
dans un supermarché et tout. Là, soudainement, ils cognent à la porte. Enfin, ils toquent à la porte. Ça m'a toujours fait rire.
Voilà. J'ai même pas percuté qu'ils toquent à la porte.
Ouais, moi, tu sais, c'est les trucs qui me. Je suis là. Bah non.
non, mais ça aurait pu. Tu vois, ça aurait pu me parler. Effectivement, je me pose la question pourquoi ils toquent à la porte, mais j'ai pas du tout percuté qu'ils
tenaient à la porte. En parlant d'en porte ouverte, alors moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, enfin plus littéralement, c'est vraiment quand Ross vient demander de l'aide à Monica, Chandler et à Phoebe, et en fait, ils enfoncent des portes ouvertes, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, d'un côté, tu ne peux pas abandonner ta femme parce que c'est ta femme, de l'autre, tu ne peux pas abandonner Rachel parce que c'est ton amie. Merci les potes, merci beaucoup, parce que effectivement, ouais, vous avez bien résolu mon problème. Vous avez bien résolu mon problème. Merci beaucoup. Donc ça, ça me fait beaucoup rire.
C'est très drôle.
Mais voilà. Après, moi, je sinon quand même pour ne pas trop entre guillemets taper sur Ross et Rachel. Je les trouve Mimi. Alors ouais. Moi, je trouve Mimi Rachel d'aider Ross. Ouais. À décider
sans savoir
de sa
vie. Voilà. Elle a scellé mais quand même,
elle aurait pu dire parce que on sait qu'elle est toujours amoureuse de Ross et elle aurait pu dire bon bah écoute de toute façon si elle veut pas te voir elle veut pas te voir tant pis lâche l'affaire passe à autre chose et là elle est quand même en train de lui dire donne ce que
donne-lui
tout ce qu'elle a envie pour qu'elle vienne et pour que vous commenciez votre vie à deux. Donc en ça, elle est très mignonne. Et Ross est quand même aussi, même si je le trouve très pathétique, voilà, moi à ce moment-là, c'est une période très compliquée pour moi pour Ross. Il est quand même très mignon parce que pour lui, c'est impossible d'abandonner, d'abandonner Rachel parce que effectivement. On le sait maintenant, je pense qu'il a toujours été depuis le premier épisode comme ça, même si c'est en fond très amoureux de Rachel sans jamais trop se l'avouer. Et là, je pense que pour lui, c'était pas une amie non plus qui perdait, c'était là, il tirait une traite sur une relation quelconque avec elle. Quoi, parce que moi, je reste persuadée quand même que effectivement, Emily aurait dû la relation Ross-Emily aurait dû durer plus longtemps. Maintenant, moi, je ne suis pas sûre que la finalité aurait été bien différente. Je ne pense pas à aucun moment que dans la tête des scénaristes, Emily ait pu terminer à un moment donné avec Ross, quoi. C'est-à-dire tu vois, elle aurait réalisé. Parce qu'après, on sait qu'on n'est pas très populaire quand on dit qu'on aime beaucoup Emily, mais ce qui n'empêche que c'est un personnage qui est chouette. Et moi, j'ai toujours imaginé qu'à un moment, un truc pas du tout violent comme ça, moi, j'ai toujours imaginé qu'effectivement, ça aurait duré et qu'à un moment donné, elle-même aurait réalisé que Ross était toujours amoureux de Rachel et qu'elle se serait retirée en disant clairement je peux pas lutter contre ça parce que moi il y a aucun scénario où Emily ça aurait duré une saison peut-être leur relation mais à aucun moment leur relation aurait duré plus que ça parce qu'on l'a déjà dit combien est grande la difficulté d'apporter un élément extérieur pour du long terme. Et effectivement, Mike, le mari de Phoebe, il arrive en fin de série, quoi. Il n'arrive pas à la sixième ou à la septième saison. Il arrive très tard. Donc, c'est pour ça aussi. Voilà.
Ouais, c'est assez… T'as bien résumé. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle est effectivement, tu l'avais déjà dit, mais là, elle est enceinte, Hélène Baxendale, donc l'actrice qui joue Emily. Et donc, c'est pour ça qu'elle est cachée sous la couette et surtout qu'elle fait des choses à distance parce qu'elle est à Londres, en fait.
C'est ça, exactement. Parce qu'elle est anglaise, elle est d'origine.
Elle est d'origine, oui, bien sûr, c'est une femme britannique.
Tout à fait.
Est-ce que tu sais ce qu'il y a écrit sur l'ardoise magique?
Oui, je te laisse le dire.
Evil Joe, donc Joe, comment on peut dire, pas satanique, méchant Joe, quoi, un truc comme ça, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'il y a écrit sur l'ardoise.
Et tu sais
pourquoi il y a écrit ça? Non, ça par contre, je ne sais pas.
Ah, parce que, ça fait référence à Joey après qu'il a dit à Phoebe que le père Noël n'existait pas.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc voilà, c'est pour ça, c'est un méchant. Alors, pour les références que j'ai relevées, donc ouais. Le film que Ross et Rachel doivent aller voir, donc apparemment, Stella a récupéré son groove. Donc, c'est un film qui s'appelle « How Stella Got Her Groove Back ». Donc, c'est comment d'accord. Stella a récupéré un peu son mojo. Donc, ouais. C'est un film avec Angela Bassett qui tombe amoureuse de Ty Dix, donc, qui était un des docteurs dans… le spin-off Private Practice. Et donc voilà, Angela Bassett tombe amoureuse de Tidy, qui est un flirt de vacances qui a 20 ans de moins qu'elle. Et c'est comme ça que, grâce à ce flirt, elle va se remettre un peu sur. Elle avait un peu abandonné goût, elle avait un peu perdu goût à la vie. Et c'est grâce à ce flirt-là qu'elle va reprendre un peu du poil de la bête. Et Sesame Street, donc c'est une émission pour enfants. Avec des marionnettes animées, on avait déjà vu l'émission dans la saison 2 de l'épisode 20 où Phoebe en fait réalise que sa maman avait tendance à arrêter les films avant que ça se passe mal. Ouais. Et donc du coup quand elle découvre que la vraie fin des films que sa mère lui avait caché, elle est fortement traumatisée et elle regarde une émission à la fin avec Ben dans les bras et c'était France a été adapté en Un rue Sésame. Ça a duré beaucoup moins longtemps et ça a beaucoup moins marqué les esprits que Outre-Atlantique.
Oui, parce que chez nous, c'est le Club Dorothée. Hein. On avait chacun nos trucs comme ça. Et ben, dernière référence, moi, que j'ai notée, c'est à la toute fin, la fameuse scène vraiment avant que ça se termine complètement, c'est dans le Central Perk, Chandler et Monica discretos qui sortent d'un espèce de placard à balai, du Central Perk. Et donc, on se doute bien, vu l'état débraillé dans lequel ils en sortent discrètement, c'est qu'ils ont fait des choses à l'intérieur pas très catholiques. Et il y a une musique qui se joue en même temps, qu'on connaît tous sans savoir vraiment ce que c'est. Ça fait pas très facile à faire. Et donc, ce morceau s'intitule Pizzicati. Alors, Pizzicati, peut-être que toi, tu peux traduire parce que c'est de l'italien, mais...
Pizzicati.
Ouais, tout à fait.
Pizzicati, alors, c'est pizzicati ou pizzicati?
Non, c'est pizzicati.
Pizzicati, parce que moi, j'aurais dit c'est des petits morceaux, mais...
Alors, c'est un peu ça. En fait, en musique, un pizzicato, c'est notamment au violon, surtout, enfin en tout cas aux instruments à cordes, c'est quand ils pincent la corde pour faire exactement comme le son que ça fait en fait dans ce morceau-là. Ils n'utilisent pas l'archet et ça fait des petits coups très brefs en fait. Et
d'accord,
c'est des pizzicato.
Okay.
Donc là, c'est Pizzicati et ça vient d'un ballet qui est intitulé Sylvia ou la nymphe de Diane, qui a été composé par Léo Delibes, qui est un compositeur français du 19e siècle. Et donc ce morceau-là est particulièrement connu, sans qu'on sache vraiment d'où ça vient, mais il est ressorti plein de fois, quoi, ce truc-là.
D'accord, ok.
Voilà.
Tu apprends tellement à ton contact.
Oh là là. Mais c'est
est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter à cette analyse qui a été encore une fois, qui s'est distinguée par sa délicatesse, sa subtilité et son intelligence?
Eh bien, écoute, si on reste sur l'intelligence, je vais sortir le mot pizzicato.
Voilà. Eh bien, écoute, j'ai appris quelque chose en italien, tu vois, nul n'est prophète dans son pays.
Incroyable.
Mille merci à vous tous de nous suivre encore et toujours. Et, oui. Nous, c'est toujours encore et toujours un réel plaisir aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à en parler avec nous aussi. N'hésitez pas à nous interpeller comme ça sur les réseaux sociaux. Iris, comment te trouve-t-on sur les réseaux sociaux?
Eh bien, sur Twitter et Blue Sky, mettez l'accent sur Blue Sky, même si je suis encore un peu sur Twitter. Ça restera de toute façon Iris Dessine en minuscule, tout attaché. Et toi, Marina, alors? Comment on te trouve?
Moi, me trouve pas.
Très bien.
Passer par Iris. Non, parce que j'ai un pseudo.
Ah oui, tu as un pseudo.
Voilà. Ouais. TV Shows Freak, voilà, qui est un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous avez des choses à dire, Iris est.
Passer par moi, je transmets.
Voilà,
toujours,
exactement. Ouais. Elle est très mignonne pour ça et pour plein d'autres choses. mille merci à tous. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.
Salut tout le monde.